changer.
Il est 8h.
Je ne sais pas s'il lance sa campagne présidentielle à Montpellier. En tout cas, que le chef de l'État vienne parler de sécurité à Montpellier, c'est une très bonne chose.
L'offensive d'Emmanuel Macron sur la sécurité. À un an de la présidentielle, le chef de l'État affiche fermeté et volontarisme contre le trafic de drogue et les violences, déplacement de terrain et grande interview au Figaro. Est-ce un nouveau club de riches ? Ou bien la promesse d'un grand spectacle pour tous. La Super League de football est créée par une douzaine d'équipes mythiques sous les sifflets du monde politique. Et puis, on le dira un jour, chez nous, le masque n'est plus obligatoire. C'est déjà une réalité en Israël, vous l'entendrez dans ce journal. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Emmanuel Macron lance, comme vous l'avez dit, une offensive sur les sujets sécuritaires. Une grande interview ce matin dans Le Figaro et un déplacement sur ce thème. Alors pourquoi une telle opération ? Les sujets régaliens, un talon d'Achille du président. Mon invité sur ce sujet, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Il a choisi son thème, son canal de communication et son moment. La sécurité, le Figaro, le lundi du milieu des vacances scolaires, alors que dans un an, nous voterons pour le premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron sera candidat, nous disait Catherine Ney à l'instant. Et il est ce matin dans l'exercice du bilan et en même temps, celui des promesses encore tenables. Les nouveaux postes chez les forces de l'ordre. D'abord, chaque Français, confirme-t-il, verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. L'uniforme des policiers aussi, jusqu'au détail de leur calot ainsi que leur voiture. Le harcèlement, dit-il, contre les dealers ou encore la création de 15 000 places de prison.
Le chef du service politique d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour, bonjour à tous.
Je présiderai jusqu'au dernier quart d'heure, dit Emmanuel Macron, qui rappelle par cette interview qu'il ne va pas juste gérer la crise sanitaire.
Et oui, il connaît ses classiques de président sortant un an avant. On défend le bilan. Et pour les Français, à part la lutte contre le Covid, le thème de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme sont les sujets de préoccupation. Le président de la République apporte des réponses, annonce de renfort en policiers matériels, fermeté affichée face aux trafiquants de drogue et soutien renouvelé aux forces de l'ordre qui avaient mal pris ses déclarations sur l'existence des contrôles aux faciès. Aujourd'hui, Emmanuel Macron affirme il n'y a pas de violence policière. Un autre point symbolique, le chef de l'État a entendu l'émotion après le jugement de la Cour de cassation sur le meurtrier présumé de Sarah Halimi qui ne sera pas jugé en raison de son état mental. Il annonce son intention de changer la loi. C'est clairement un sujet de campagne présidentielle. D'ailleurs, cet entretien au Figaro est un rappel de son action depuis son élection et une manière de rappeler également que la sécurité n'est ni de droite ni de gauche.
Alors justement, visite de terrain sur le thème de la sécurité à Montpellier, ville de gauche. Et avant d'accueillir Emmanuel Macron, le maire de la ville, Mickaël Delafosse, était sur Europe 1 en direct ce matin.
Il faut être très ferme face au trafic. Parce que qui est fragilisé ? C'est les jeunes qui croient gagner plus d'argent en allant vendre ou qui se laissent détruire leurs études parce qu'ils consomment. Les habitants des quartiers où les trafiquants s'installent. Et donc, il faut être extrêmement ferme. Et je le dis d'autant plus, et j'observe que le chef de l'État partage cette analyse, que quand certains se laissent aller à l'achat d'une cocaïne récréative, eh bien, ils participent aussi à l'insécurité des quartiers populaires. Et donc là, il y a une question de responsabilité, outre une question de santé publique, évidemment.
Mickaël Delafosse, maire et président de la métropole de Montpellier, qui était l'invité du 5-7 de Sébastien Krebs sur Europe 1.
Mickaël Darmon est toujours avec nous. Ce maire à Montpellier, c'est un socialiste, et ce choix d'Emmanuel Macron d'aller dans sa ville, ce n'est pas un hasard.
Et oui, c'est une ville dirigée Montpellier par un maire socialiste qui prône, on l'a entendu, une attitude réaliste et ferme sur les questions de sécurité. L'interlocuteur idéal pour le chef de l'État, qui met en avance une référence, celle de Jean-Pierre Chevènement, désigné ce matin dans le Figaro comme son ami, un an avant l'élection présidentielle. On voit bien les contours d'un discours sur la fermeté républicaine dans cette logique posée depuis un certain temps par Emmanuel Macron. On se souvient de son discours sur la République au Panthéon. D'autant que parmi les candidats déjà lancés, Xavier Bertrand dénonce régulièrement l'échec total de Macron sur la sécurité. Il a vu les sondages, le président, il est au coude à coude avec Marine Le Pen et en fait, il y a urgence. Il ne peut pas rester immobile et face à un virus qui lui a volé le contrôle de son agenda, eh bien, il n'a pas d'autre choix. Il doit se mettre en marche, persuadé que lui seul pourra sauver le soldat Macron.
Mickaël Darmon, chef du service politique de la rédaction.
Et ce matin, on se projette sur les élections régionale, avec ce nouveau sondage Europe 1, la Tribune, réalisé par l'IFOP.
Oui, à 2 mois de l'échéance en Normandie, le président sortant Hervé Morin, pour la droite et le centre, est en tête, 31% d'intention de vote, challengé par Nicolas Bay du Rassemblement National à 26%. Là aussi, la politique n'est pas loin, mais le business semble l'emporter, avec ce communiqué envoyé à minuit pile par 12 grands noms du foot européen, du Real à la Juve, de l'Atlético à Chelsea. Il y a aussi les deux Manchester et les deux clubs milanais. Après des années de discussion, ils lancent leur Super League.
Et ce n'est pas un hasard de calendrier, hein, si c'est aujourd'hui que doit être entérinée une réforme de la Ligue des Champions, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est un bras de fer entre les clubs les plus riches et l'UEFA qui organise la lucrative Ligue des Champions. Le Real Madrid, Manchester United et la Juventus de Turin notamment lorgnent sur ce jackpot, d'autant qu'avec la pandémie, certains clubs sont dans le rouge, d'où leur idée de créer une ligue fermée, explique l'économiste du sport Vincent Chaudel.
Les clubs, y compris les grands clubs, ont de grandes difficultés économiques. Un seul exemple, le FC Barcelone qui a plus d'un milliard de dettes, et donc évidemment qu'ils cherchent à développer leurs recettes. Une formule de ligue fermée garantirait encore plus d'argent à ces clubs-là.
Dans cette nouvelle compétition entre clubs super riches, chaque participant pourrait toucher 350 millions d'euros par an, soit 4 fois plus que ce que gagne aujourd'hui le vainqueur de la Ligue des Champions. Mais l'UEFA qualifie ce projet de cynique et menace les clubs concernés de les exclure de toutes les compétitions existantes. Le PSG a confirmé à Europe 1 qu'il n'a pas l'intention d'y participer. D'ailleurs, l'Allemagne et la France sont sur cette ligne. L'Élysée a rappelé sa ferme opposition à cette Super Ligue européenne qui mettrait un terme au mécanisme de solidarité.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1, 8h07.
Une bouffée d'air frais en plein visage, pouvoir parler tout en marchant sans être essoufflé, ni devoir rectifier la position de ce petit élastique là derrière l'oreille. Bref, la vie sans masque, encore au stade de science-fiction chez nous, c'est une réalité depuis hier dans les rues en Israël, pays le plus vacciné au monde.
Clotilde Mravko est avec nous depuis Jérusalem. Bonjour Clotilde.
Bonjour.
Ça y est, 24 heures sans masque chez vous. On imagine que l'état d'esprit général, l'ambiance, ont changé en même temps.
Eh bien, il y a une sorte de légèreté retrouvée ce matin dans les rues de Jérusalem. Beaucoup d'Israéliens me parlent d'un grand sentiment de liberté. Je suis dans l'une des principales artères piétonnes de la ville et on peut enfin voir des rires, des sourires de passants. Rares sont ceux qui ont gardé le masque malgré tout. Noy Toren, une étudiante de 29 ans, l'a d'ailleurs tout de suite retiré hier quand la mesure est entrée en vigueur.
I can breathe again.
Je peux respirer à nouveau.
I can put lipstick.
Je peux mettre du rouge à lèvres.
It's weird because I
c'est bizarre, je n'ai plus l'habitude de voir le visage des gens. J'ai réalisé ça en voyant les gens sourire.
People smiling, it's great.
C'est génial, c'est magnifique de voir à nouveau les gens.
Tout ceci est possible car 81% des Israéliens et des résidents dans le pays ont été vaccinés. Le port du masque est encore obligatoire dans les transports en commun et à l'intérieur des bâtiments. Les autorités veillent car le pays a peur des variants, notamment celui venu d'Inde, qui pourrait être résistant au vaccin.
Clotilde Mravko en ligne de Jérusalem pour Europe 1. La vaccination en France, ce sont 12,5 millions de personnes désormais qui ont reçu au moins une dose.
Et on apprend ce matin que les études d'infirmiers sont plébiscitées sur Parcoursup. C'est la formation la plus demandée sur la plateforme d'orientation vers les études supérieures.
Et ce, pour la troisième année consécutive. 10% des lycéens ont fait ce vœu. Anne Le Gall, la crise sanitaire n'a pas découragé les vocations.
Absolument. L'année dernière, un candidat sur 20 seulement a pu décrocher sa place. C'est le cas de Bertille et Marion, aujourd'hui en première année. La pression sur les hôpitaux pendant le confinement ne les a pas découragés, au contraire.
Ça fait que confirmer mon choix que je voulais être utile pour les autres, que je voulais être là, présente, aider les autres pour les soigner.
Parce qu'on se rend compte que vraiment, on a besoin de nous, on a besoin de soignants. Et justement, c'est une motivation supplémentaire, je trouve.
Et en première année, il y a eu l'apprentissage des premiers gestes techniques, toilettes, pansements, prise de sang, avec des stages à l'hôpital et en EHPAD, un peu particulier à cause du Covid.
C'était pas facile et en même temps, on était utile pour ce deuxième confinement.
Alors moi, j'étais confrontée à la mort, mais en fait, très bien entourée par l'équipe à l'EHPAD. Donc faut s'y faire. Je pense qu'on s'habitue jamais, mais faut s'y faire.
Et leur emploi d'infirmière est quasi assuré en fin d'études. Certes, la réalité du métier, ce sont aussi des journées de travail très chargées, m'a confié Bilal, diplômé l'année dernière. Mais le gouvernement vient d'annoncer un coup de pouce sur les salaires. 290 euros net de plus par mois en début de carrière.
Les précisions d'Anne Le Gall pour Europe 1. Son état de santé influe directement sur le niveau de tension diplomatique entre la Russie et le reste du monde. Alexandre Alexei Navalny, empoisonné l'été dernier dans son pays, soigné en Allemagne, retourné à Moscou, arrêté, emprisonné et en grève de la faim depuis des semaines.
Quand des médecins proches de son mouvement s'inquiètent d'un possible arrêt cardiaque d'une minute à l'autre, de nombreux États étrangers protestent. Jean-Jacques Herry.
À Berlin, on réclame de manière urgente un traitement médical adéquat pour Alexei Navalny. À Paris, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pointe la responsabilité majeure du président Vladimir Poutine. Et à Washington, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, menace les autorités russes sur CNN.
Il y aura des conséquences si M. Navalny meurt.
Quant à l'Union européenne, elle souhaite sa libération immédiate et sans condition. Pour le moment, pas de réponse directe du Kremlin. Seule prise de parole, celle de l'ambassadeur russe à Londres sur la BBC.
Navalny se comporte comme un hooligan, mais on ne le laissera pas mourir en prison.
En effet, pour Florent Parmentier, chercheur au Cevipof, la Russie ne peut pas se le permettre. Mais ce ne sont pas les injonctions occidentales qui feront céder Vladimir Poutine s'il cède, mais bien des raisons de politique intérieure.
Il n'est pas nécessairement dans l'intérêt du pouvoir central russe de perdre Alexei Navalny et certainement pas en prison. Ça risque de mener à d'autres formes de remise en cause plus radicale du pouvoir en interne, par la population même.
C'est ce levier que les proches d'Alexei Navalny s'efforcent d'enclencher. Ils ont appelé à une grande manifestation dans toute la Russie ce mercredi pour sauver la vie d'un opposant qui pourrait devenir un martyr.
L'éclairage de Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
Un nouvel accident mortel impliquant une Tesla. Ça s'est passé aux États-Unis samedi soir.
Oui. Deux hommes ont perdu la vie alors que la voiture dans laquelle ils se trouvaient s'est écrasée contre un arbre et a pris feu. Aucun des deux ne semblait assis sur le siège conducteur, ce qui pose la question de l'autopilote, ce système de conduite par ordinateur. Et puis une excellente nouvelle dans le sport, pour ne pas dire une bonne surprise, s'agissant de la participation de Roger Federer à Roland-Garros, le géant absolu du tennis, 20 tournois du Grand Chelem à son actif, sera bien là, il l'a confirmé hier soir pour l'ex-tennisman Cédric Pioline. Roger Federer ne revient pas pour faire de la figuration.
C'est une très bonne nouvelle pour le tournoi, c'est une très bonne nouvelle pour les fans. Ça montre qu'il a de l'envie, qu'il croit toujours qu'il peut être compétitif, même sur terre battue où c'est toujours un petit peu plus compliqué. Il est un petit peu à court de compétition hein, du fait de cette blessure, évidemment de la pandémie également. Je le sens pas en tout cas dans cet état d'esprit de se dire je viens me montrer une dernière fois. Donc je pense vraiment qu'il revient à Paris parce qu'il se sent compétitif, qu'il a envie de disputer ce tournoi et de bien y figurer.
Il se sent compétitif, Roger Federer. C'est ce que nous dit Cédric Pioline. Et vous savez quoi ? On va suivre ça sur Europe 1 puisque c'est la radio officielle du tournoi de Roland-Garros qui commence le 30 mai.
Et où est-ce que vous vouliez suivre ça d'autre, François ? Évidemment. Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, Sonia Mamouk et son invité. Aujourd'hui sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
Bienvenue à vous et bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Le président s'exprime ce matin dans le Figaro en longueur sur la sécurité avant un déplacement à Montpellier sur ce thème. Il a compris que la sécurité c'est son talon d'Achille en vue de la présidentielle.
On a surtout compris dès 2017 que c'est un enjeu fondamental de vie quotidienne pour les Français qui pour un certain nombre d'entre eux n'en peuvent plus. De devoir vivre avec l'insécurité dans leur quartier, qui aspire à la tranquillité. Et c'est pour ça que dès 2017, on a pris des mesures extrêmement fortes en termes de moyens, près de 2 milliards d'euros de budget en plus pour la sécurité, le renouvellement du parc automobile, le paiement des heures supplémentaires pour nos forces de l'ordre, un certain nombre de lois pour permettre de renforcer et d'être plus ferme face à la criminalité. Et puis une offensive extrêmement forte contre la drogue dans notre pays, parce qu'on sait que c'est la mère de toutes les batailles et que donc il faut agir de manière extrêmement déterminée. C'est ce qu'on fait et effectivement le président sera à Montpellier pour regarder les résultats de cette politique et puis ce qu'il faut améliorer aussi.
Mais le président dit se battre, je cite, pour le droit à la vie paisible des Français. Hier, deuxième nuit de violence urbaine à Tourcoing avec tir de mortier. Pendant que les Français subissent, pendant que les policiers sont attaqués, l'incantation ne suffira pas.
Mais l'incantation, effectivement, ne suffit pas.
C'est quoi le droit à la vie paisible quand on voit des nuits comme ça qui se succèdent de grandes violences?
Mais vous savez, Sonia Mabrouk, je disais à l'instant qu'on avait une offensive extrêmement forte sur la question de la drogue. Parce qu'on sait que la drogue, c'est ce qui finance la criminalité, c'est même ce qui peut financer le terrorisme. Et donc oui, on a une politique absolument résolue pour démanteler les points de deal, pour démanteler les trafics. Et quand vous démantelez un point de deal, quand vous démantelez un trafic et un réseau, qu'est-ce qui se passe? Il y a en face une réaction.
Il se reconstitue.
Il peut y avoir en face une réaction, des agressions contre les forces de l'ordre. Donc c'est certain qu'on perturbe un écosystème et que ça peut entraîner un certain nombre de violences. Mais on est extrêmement déterminé, on agit extrêmement fort. On ne peut pas, évidemment, revenir sur des années, voire des décennies de laisser-aller en quelques mois seulement.
La faute aux autres.
Non, simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a un chantier absolument fondamental, structurant, qu'on y met les moyens depuis le début de ce quinquennat, qu'on va continuer à le faire, qu'on arrive à faire travailler ensemble des services qui probablement n'ont pas travaillé suffisamment ensemble auparavant, en mettant ensemble les services de police, de gendarmerie, les collectivités locales, l'éducation nationale. Ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces et c'est ce que le président va redire ce matin à Montpellier.
Et peut-être qu'il s'exprimera de nouveau sur la violente attaque de policiers à Viry-Châtillon avec un verdict, Gabriel Attal, qui a provoqué vraiment la colère et la vive indignation des policiers. Quel signal, selon vous, a été envoyé là par la justice?
Ne me dites pas que vous commentez pas. Je suis membre du gouvernement. C'est une décision de justice qui a été rendue en cour d'assises par le peuple français, par des jurés, des personnes qui, comme vous, comme moi, comme ceux qui nous écoutent. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que, évidemment, j'ai une pensée pour les victimes, pour leur famille et pour l'ensemble des forces de l'ordre. Donc, je peux comprendre l'émotion quand elles voient que des personnes, finalement, ne seront pas poursuivis.
Ça s'appelle le sentiment d'impunité des délinquants. Il est renforcé par ce verdict?
Écoutez, en tout cas, je vais vous dire, nous, on renforce notre action pour protéger ceux qui nous protègent.
Sur ce cas-là, cette affaire terrible, Gabriel Attal, rappelons-nous et rappelons aux auditeurs, ce sont des policiers qui ont été transformés en torches vivantes. Ne faut-il pas une peine au moins automatique minimum quand on s'en prend avec une telle barbarie à des policiers?
Je vais vous dire, ce qu'on vient de faire voter dans la loi, c'est la loi sécurité globale. C'est la fin des remises de peine automatiques pour ceux qui ont agressé des forces de l'ordre. Ça, déjà, c'est une action très forte, ça vient d'être voté. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on augmente les moyens concrets des policiers. Par exemple, ça peut paraître anecdotique pour certains, on renouvelle la moitié du parc automobile des policiers, parce que quand vous voulez être efficace
face
aux voyous...
en plus, mais quelle politique pénale?
Ce que je vous disais sur les remises de peine, c'est déjà une mesure pénale importante. La troisième chose, la généralisation des caméras piétons. Une caméra piéton, ça permettra aussi d'avoir des éléments de preuve supplémentaires pour des policiers qui seraient agressés, avec des images de personnes qui les auraient agressés.
Mais n'est-ce pas le reflet d'un État impuissant quand on a un tel verdict?
Si je croyais à l'impuissance de l'État, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, je ne serais pas membre du gouvernement d'Emmanuel Macron. On est là précisément pour transformer les choses et pour agir très concrètement face à ces problèmes. C'est difficile, mais on y va de manière résolue. Et on y va, et on va avoir des résultats.
Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé, malgré le caractère antisémite de ce crime. Le président veut un changement de la loi pour que la prise de stupéfiants n'entraîne pas cette irresponsabilité pénale. Est-ce que ça veut dire, Gabriel Attal, qu'on va juger les fous, en tous les cas ceux qui se font passer pour des fous?
Mais ce que ça veut dire, c'est que la décision qui a été rendue par la Cour de cassation, elle dit le droit, mais que le droit, le sens de cette décision, ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit permet qu'une bouffée délirante, comme on dit, liée à la consommation de stupéfiants, entraîne une irresponsabilité pénale. C'est pas possible. La drogue, ça peut pas être un permis de tuer. Et donc, effectivement, il faut changer la loi, puisque la loi ne convient pas.
À travers le fait qu'il n'y ait pas eu un procès, ça donne ce sentiment que la prise de stupéfiants, c'est un permis de tuer.
Mais bien sûr, si finalement vous commettez un crime odieux, après avoir pris des stupéfiants et qu'on vous dit parce que vous n'étiez pas tout à fait vous-même, parce que vous aviez pris des stupéfiants, vous ne serez pas jugé, c'est totalement inacceptable pour les Français. Et cette affaire, elle provoque légitimement une émotion extrêmement forte chez tous les Français. Et donc, il faut changer la loi. Et le président de la République a demandé au garde des Sceaux de faire des propositions en ce sens. Ce sera fait dans les
même
tout prochains jours.
Même si ça ne sera pas rétroactif dans l'affaire, forcément, Sarah Halimi, est-ce qu'un procès reste nécessaire pour, justement, la société, pour les Français, au-delà de la communauté juive?
Vous savez, il y a un principe de non-rétroactif qui, je pense, s'applique. La Cour de cassation, par ailleurs, a rendu une décision. Il y a une émotion très forte chez tous les Français, je le dis. Et si au moins cette affaire peut nous permettre de faire évoluer notre droit pour que une telle situation ne puisse pas se reproduire et qu'il y ait une irresponsabilité pour quelqu'un qui, de fait, est allé tuer une femme parce qu'elle était juive, ça sera évidemment un progrès.
Depuis tout à l'heure, Gabriel Attal, on parle de police et de justice. Vous avez un ton volontariste, mais on remarque à chaque fois la justice ne suit pas ce que vous dites, ne suit pas ce volontarisme. Est-ce qu'il y a un problème de laxisme d'une partie des magistrats?
Je dirais pas ça. Ce qui est certain, c'est qu'il faut renforcer notre justice, parce que la réalité, quand on parle des problèmes de sécurité depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a la question de l'insécurité pour les Français, mais ce qui les rend malades, c'est aussi la question de l'impunité. Et c'est finalement ce sentiment de voir des voyous commettre des délits et ne jamais être sanctionné.
Est-ce que le garde des Sceaux en prend vraiment conscience ?
Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il a
obtenu... Est-ce qu'il est du côté des victimes et pas seulement...
Évidemment, vous savez, Éric Dupond-Moretti, quand il a été nommé, il a dit quelque chose de très clair. Il a dit, je veux revenir à ce bon principe, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On doit avoir des peines qui sont prononcées et qui sont exécutées plus rapidement.
Mais on attend des mesures sur la justice davantage que sur la police ce matin dans le Figaro, Emmanuel Macron, on attendait davantage.
Il évoque la justice, justement, il rappelle l'augmentation historique du budget de la justice, plus 8% cette année, ça va permettre quoi ? De recruter des greffiers,
magistrats. Les effectifs c'est bien, le volontarisme sur la politique pénale c'est mieux.
La réforme du code de justice des mineurs qu'on a fait voter, ça vise à faire en sorte qu'un mineur qui commet un méfait, un délit, au lieu d'être jugé, de voir la sanction au bout de 18 mois, ça soit au bout de 3 mois maximum. Voilà, c'est ça ce qu'on fait très concrètement et ça va rentrer en vigueur en septembre.
Gabriel Attal, j'en viens à présent à la situation sanitaire. La France va désormais progressivement mettre en place une quarantaine pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud ainsi que pour la Guyane. Mais avec quels moyens de contrôle ?
Avec le contrôle de nos forces de police et de gendarmerie.
Aléatoire.
Très concrètement, aujourd'hui... on a pris des décisions qui font que quand vous venez de ces pays, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, il faudra produire un test PCR négatif de moins de 36 heures et non plus de 72 heures. Ensuite, les motifs pour venir en France vont être encore restreints. Et donc, c'est déjà une liste très limitée parce qu'on a pris des mesures très tôt au mois de janvier sur les motifs impérieux. La liste va être encore plus limitée. Et puis, enfin, effectivement, quand vous arriverez, au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, une demande d'auto-isolement, vous aurez une obligation de vous isoler avec un arrêté préfectoral nominatif qui sera rendu avec votre nom. Et donc, vous devrez rester isolé pendant 10 jours. Et il y aura des contrôles par la police, par la gendarmerie, qui permettront de vérifier que vous êtes bien dans le lieu où vous devez vous isoler.
Avec à la clé des amendes ?
Avec à la clé des amendes. Ce sera une contravention de 5e classe. C'est donc, je crois, 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive. Et donc, ça me semble être tout à fait dissuasif et un cadre extrêmement strict.
Bien. Et si je transite par un pays européen ?
Si, mais c'est pour ça qu'on a une action européenne, Sonia Mavrouk.
Ah bon ?
Oui. Demain,
très franchement, vous avez une coordination européenne. On attend de la voir.
Je vais vous dire, on peut considérer que la coordination européenne n'a pas été parfaite en tout point sur ce sujet-là.
C'est un euphémisme, monsieur
Attal. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas dire à ce gouvernement qui n'a pas essayé à chaque fois d'avoir la meilleure coordination européenne
toujours
possible.
Toujours avec un temps de retard. Pour la prise de décision sur ces sujets, ça fait des semaines que l'opposition et des médecins vous demandent cette quarantaine.
Mais vous voyez bien que précisément, on prend des mesures. Avant même qu'il y ait cette coordination européenne, on a annoncé ces mesures et demain, mon collègue Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, sera avec les ministres des Affaires européennes pour continuer à avancer vers cette coordination européenne. Parce que vous avez raison, sur ces sujets-là, il faut qu'on soit coordonnés. Parce que sinon, il y a toujours la possibilité de venir dans notre pays en échappant à certaines mesures.
Mais je vous donne un exemple. J'arrive du Brésil, mais je passe par le Portugal. Ben, j'ai aucun problème à rentrer en France sans aucune quarantaine.
Alors, le Portugal avait suspendu ses vols avec le Brésil. Je crois qu'il les a repris, mais qu'il a mis en place, pour le coup, des mesures extrêmement, extrêmement strictes de quarantaine. Mais si on a cette réunion avec l'ensemble des ministres des Affaires européennes, c'est précisément
pour
avoir la meilleure coordination possible.
Mais vous me dites réunion, monsieur Attal, mais pourquoi quand il s'agit de nous confiner, de nous enfermer sur le plan national, vous le décidez très rapidement, mais quand il s'agit de frontières, on dirait que vous avez un dogme chez vous de la frontière.
Il y a un an, quand cette crise a démarré, on a fermé les frontières extra-européennes. Alors, en septembre dernier, donc il y a près d'un an, on a mis en place le test PCR obligatoire pour embarquer, pour venir en France. En janvier, on a mis en place des motifs impérieux pour pouvoir venir en France. On a réduit énormément le nombre de personnes qui peuvent venir. Le trafic aérien aujourd'hui en France, c'est 10% du trafic habituel. Et d'ailleurs, à certains moments, quand on a pris ces mesures, parfois on nous les a reprochées en nous disant qu'on était trop durs, y compris avec nos ressortissants français qui vivent à l'étranger. Donc, on a toujours été très volontaristes sur cette question-là. Est-ce qu'on aurait pu prendre certaines mesures plus tôt ? Peut-être, mais encore une fois, on a d'un côté cette volonté de prendre des mesures au plus tôt, et c'est ce qu'on fait, et de l'autre, la nécessité pour l'efficacité de chercher une coordination européenne, c'est
justement
ce qu'on fait.
Vous parlez d'efficacité sur l'AstraZeneca, faute de volontaires pour se faire vacciner avec ce vaccin. Le Palais, par exemple, des expositions à Nice a fermé ses portes samedi après-midi. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement, Gabriel Attal, ce matin, est-ce que vous misez encore sur ce vaccin ?
Oui, on mise encore sur ce vaccin.
La confiance n'est pas rompue ?
Elle doit être reconstruite, c'est certain.
Comment vous allez faire ?
Il faut communiquer, il faut être transparent. Il y a quand même, je crois, 65 ou 70 000 personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca par jour la semaine dernière. Moi, je crois aussi au fait que ce sont autant de personnes qui se sont fait vacciner, qui verront que ça se passe très bien et qui pourront dire autour d'elles que ça s'est très bien passé et que petit à petit, la confiance va se rétablir. Mais là où je vous rejoins totalement, c'est qu'il y a un gros travail à faire pour rebâtir la confiance. Or, on a des études scientifiques aujourd'hui, faites par des scientifiques indépendants, qui nous disent que quand on se voit administrer ce vaccin, quand on a plus de 55 ans, il n'y a pas de risque. Et le vaccin est sûr et efficace. Et donc, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à avoir recours au vaccin AstraZeneca, comme l'a fait par exemple le Premier ministre, pour donner l'exemple, je pense que c'est aussi important.
Question plus politique pour conclure, Édouard Philippe, est-ce qu'il est, il dit qu'il est libre et loyal, l'ancien Premier ministre. Selon vous, il est plus libre que loyal ou plus loyal que libre? Vous avez
deux,
une minute pour répondre.
S'il le dit.
Oui, mais quoi d'abord? C'est
moi,
ça le plus important.
Moi, je vais vous dire, j'ai été secrétaire d'État dans le gouvernement d'Édouard Philippe pendant un an et demi. J'ai pu voir son sens de l'État, sa fidélité aux valeurs qui sont celles du président de la République, sa volonté que la majorité présidentielle réussisse, pas pour nous-mêmes, mais pour le pays.
Là, vous croyez vraiment ce que vous me dites?
Oui, je crois profondément ce que
vous. Donc vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il fera la campagne d'Emmanuel Macron en vue de 2020?
Je vous dis que je n'ai aucun doute sur à la fois sa loyauté, son sens de l'État et son souhait que notre pays réussisse et qu'il réussisse avec Emmanuel Macron.
Peut-être qu'il le dira. En tous les cas, il sera ce soir sur Europe 1. Merci Gabriel Attal.
Merci.
Quant à vous, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Vous l'écouterez Gabriel Attal?
Si vous me dites à quelle heure
18h30
c'est,
puis, précisément.
Bah, écoutez, je ferai mon possible.
Rendez-vous est pris au micro de Michel Denisot, ce sera sur Europe 1. Merci beaucoup Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant, un nouveau point sur l'info, la météo de Laurent Cabrol. Tiens, j'en dis pas plus, de la musique avant 9h. Restez avec nous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Presque 8h30 sur Europe 1, Théo Manval avec nous, un nouveau point sur l'info.
Et dans une heure, si tout va bien, les hommes auront réussi à faire décoller un appareil à moteur sur une autre planète que la nôtre. L'hélicoptère de la NASA Ingenuity doit tenter ce vol inédit sur Mars à partir de 9h30 heure française. Un robot de moins de 2 kg pour tenter de s'élever dans l'atmosphère très peu dense de la planète rouge. Ingenuity, dont l'astronaute Thomas Pesquet suivra certainement les progrès. Le futur commandant de la Station Spatiale Internationale est en plein préparatif avant son décollage à lui jeudi pour une mission de 6 mois dans l'ISS. Et pour éviter d'y emmener virus ou bactéries, il est en quarantaine pour l'instant depuis une semaine et jusqu'au décollage lors d'Autriche, moment des toutes dernières vérifications.
Oui, vérifier que le scaphandre fonctionne, scaphandre qu'il utilisera pour ses sorties dans l'espace. Vérifier aussi la procédure de vol. Dans cette fusée SpaceX, Thomas Pesquet sera assis à droite et la capsule sans aucun bouton se commande uniquement avec 3 écrans tactiles. Thomas Pesquet est en quarantaine jusqu'au moment de monter dans la fusée pour ne pas risquer d'emporter des microbes sur la station spatiale et il fait toujours quelques heures de sport chaque jour, raconte son collègue, l'astronaute italien Luca Parmitano, qui s'entraîne avec lui.
J'étais à la gym de la NASA avec lui. Il est en pleine forme. Il continue à s'entraîner avec son équipage. Pour l'entraînement, maintenant, c'est un entraînement très simple. C'est un rafraîchissement de procédures. Mais surtout, je dirais qu'il est très heureux. Il est prêt.
En plus de sa famille, Thomas Pesquet a la possibilité d'inviter 80 personnes pour assister à son décollage, personnes qui sont en train d'arriver en ce moment aux États-Unis.
Merci beaucoup, Lord Autriche. C'est une guerre des étoiles déclenchée cette nuit au sommet du foot européen. 12 des clubs les plus prestigieux, Manchester, l'AC Milan, le Barça ou le Real Madrid, annoncent la création d'une Super League, une compétition fermée, rien qu'entre eux, boycottant la Ligue des Champions. Une affaire surtout de gros sous, puisqu'elle leur permettrait de gagner 3 fois plus grâce aux billets et aux droits télévisé que ce que remporte aujourd'hui le vainqueur de cette Ligue des Champions. L'UEFA, instance du football européen, condamne et menace de bannir ses clubs et leurs joueurs de toutes les compétitions. La Drobe ne peut pas donner un permis de tuer. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, soutient sur Europe 1 la demande de changer la loi qui permet aujourd'hui l'irresponsabilité pénale pour les auteurs de crimes commis sous l'emprise de stupéfiants. Un changement demandé par le président de la République lui-même après la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Sarah Halimi, dont le meurtrier qui avait agi sous l'emprise du cannabis, ne sera pas jugé. Le chef de l'État qui place l'enjeu sécuritaire au cœur de ce qui ressemble fort à un début de campagne à un an de la présidentielle. Déplacement aujourd'hui dans un commissariat de quartier à Montpellier après une longue interview publiée dans le journal Le Figaro où le président défend son bilan, promet d'atteindre son objectif de 10 000 créations de postes de policiers et gendarmes d'ici la fin du quinquennat. Emmanuel Macron qui veut donc centrer le débat sur les sujets régaliens. Claudia Bertram.
Oui, et notamment celui de la sécurité du quotidien qui avait été affiché par l'exécutif comme l'une des priorités pour la fin du quinquennat. À Montpellier, Emmanuel Macron va échanger avec des forces de l'ordre. Ce sera l'occasion d'aborder des sujets comme la prévention de la délinquance et le lien police-population, précise l'Élysée. Les syndicats de police comptent faire part de leurs difficultés au chef de l'État. Écoutez Bruno Bartosetti, secrétaire national SGP Police, chargé de la zone sud, joint par Yasmina Katou.
Aujourd'hui, on a un problème en matière de sécurité sur notre territoire. Ce qui est important, c'est que au moment où on rencontre le président de la République, on peut s'exprimer et on peut développer justement de manière réelle des difficultés qu'on rencontre. Si sa motivation, elle est électorale, en tout cas, il sera bien obligé d'entendre la réalité du terrain et on compte bien s'exprimer assez clairement, assez fermement là-dessus.
D'après une étude récente, la sécurité fait partie des thèmes qui compteront le plus dans le choix des électeurs pour la présidentielle de 2022. Le président veut donc mettre en avant sa politique en la matière, alors que la droite et le Rassemblement national sont à l'offensive sur ce sujet et tirent à boulet rouge sur l'action du chef de l'État.
Emmanuel Macron qui annonce aussi un grand débat national sur la consommation de drogue pour éradiquer les trafics et qui assure, je cite, qu'un point de deal est fermé chaque jour dans le pays. Au volet sanitaire, le nombre de personnes en réanimation est repassé ce week-end en France sous la barre des 5 900. Près de 13 millions de Français ont reçu une première injection, soit environ un cinquième de la population. Et l'application Tous Anti-Covid intégrera bientôt un certificat de vaccination et un onglet recensant vos tests positifs ou négatifs. C'est ce qu'a annoncé hier soir le gouvernement. La petite Mia doit-elle retrouver sa grand-mère aujourd'hui dans les Vosges, 5 jours après son enlèvement? Sa mère est toujours en garde à vue en Suisse. Elle devrait être prochainement extradée vers la France. Les 5 hommes qui l'ont aidée à enlever sa fille et à passer la frontière ont été mis en examen hier soir. 4 d'entre eux placés en détention provisoire. Alexei Navalny, lui, risque la mort d'une minute à l'autre. C'est ce que disent ses médecins en raison de sa grève de la faim entamée il y a près de 3 semaines en prison. Réunion d'urgence aujourd'hui des ministres européens des Affaires étrangères. Washington promet déjà des conséquences si Moscou laisse dépérir l'opposant au Kremlin. En Allemagne, le feuilleton de la succession d'Angela Merkel s'éternise. Les 2 rivaux en lice pour prendre les rênes de la CDU ne sont pas parvenus à se mettre d'accord hier soir comme c'était prévu. Armin Laschet et Markus Söder se disputent le leadership du parti chrétien-démocrate en vue des législatives du mois de septembre, élections qui désigneront le nouveau chancelier. Les députés de la CDU pourraient être amenés à trancher ce choix demain. Enfin du football, sur les terrains cette fois-ci, le championnat de France de Ligue 1 extrêmement serré à 5 journées de la fin. Les 4 premiers se tiennent en 3 points. Lille reste leader après à la 33e journée devant le PSG, Monaco et Lyon.
Merci beaucoup Théo Manval. 8h35 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous.
Et les températures, remontent. Hein, des températures qui, certes, pour beaucoup d'entre nous, sont largement supérieures à 0 degré. Hein. Ce matin, elles étaient se situaient entre 2 et 10 degrés. Mais nous avons eu un petit peu de gelée en Sologne, dans le Beauvaisis notamment, et puis dans le département de l'Ain. Mais enfin, les gelées disparaissent ou elles sont vraiment très faibles. Ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Et dans la journée, les températures vont bien grimper. Elles vont atteindre les 15 à 20 degrés sur l'ensemble de la France, 15 à Caen, 16 degrés à Lille, 17 à Marseille et à Lyon, 17 à Paris, 18 à Nantes, 19 à Bordeaux, 20 degrés à Angers et à Tours et 21 degrés à Narbonne et Perpignan. Côté ciel, ma foi, ce sera un temps globalement ensoleillé avec quelques nuages et peut-être une petite ondée sur le nord, là, les frontières du nord et du nord-est qui sont pratiquement le seul endroit où nous aurons ce secteur, où nous aurons un petit peu d'intempéries. Et puis il y en aura aussi des intempéries sur le massif alpin comme sur la Corse. Alors si là, il s'agit de giboulées, neige ou pluie, hein, ou même orage. Notamment, il y en a eu ce matin du côté de Bastia. Voilà, pour l'essentiel, demain, les nuages se situeront plutôt sur les côtes atlantiques de la France.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h36 sur Europe 1. Dans un instant, on prend soin les uns des autres dans Europe Matin avec le docteur Jimmy Mohamed.
Lumbago, lombalgie ou tour de rein, vous allez voir que des solutions simples existent pour éviter de se faire mal au dos, en particulier en période de télétravail.
Notre santé avant notre planète, avec Fanny Agostini bien sûr, et Angèle Châtelier, on va écouter le monde chanter. It doesn't matter. Angèle va nous présenter le nouvel album du groupe London Grammar avant de retrouver le meilleur de Nicolas Canteloup sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le télétravail continue pour de nombreux Français et ce télétravail peut être synonyme de mauvaise posture et donc de douleur au niveau du dos.
Et oui, d'autant plus que 70 à 80% des adultes souffriront du dos un jour au cours de leur vie. Et ce chiffre est en constante augmentation depuis la fin du XXe siècle. Avant, les hommes et les femmes pratiquaient plus d'activités physiques, donc prenaient moins la voiture, marchaient plus, faisaient plus de vélo, n'avaient pas de téléphone portable. Et donc, on avait des gens qui étaient plus musclé, synonyme d'un dos en meilleure santé. Et donc, le premier conseil simple qu'on peut proposer, c'est de pratiquer une activité physique, car c'est prouvé, cela va protéger votre dos. C'est confirmé par de nombreuses études, dont une norvégienne auprès de 50 000 personnes. Les douleurs musculo-squelettiques, c'est-à-dire les douleurs de dos ou même les douleurs articulaires, étaient 30% moins fréquents chez ceux qui faisaient de l'activité physique 3 fois par semaine. Alors, vous allez me dire quel sport pratiquer. Souvent, on vous dit de faire de la natation et on trouve toujours de bonnes excuses pour pas en faire. Alors là, en ce moment, c'est fermé, mais on dit toujours j'ai pas de bonnet de bain, j'ai pas de slip et puis je sais pas nager. Sachez que le meilleur sport, c'est tout simplement celui que vous aimez.
Alors, ok, pratiquer une activité physique. Est-ce que vous avez d'autres conseils simples en dehors de pratiquer l'activité physique?
Oui, Mathieu, je vois que vous êtes toujours réfractaire à cette activité physique.
Je vois à peine venir, Jimmy.
Je vous propose quelque chose de très simple, c'est de pendiculer sans gêne plusieurs fois par jour. Alors, vous ne me prenez pas, pendiculer, ça veut dire s'étirer les muscles au niveau de son corps plusieurs fois par jour, les bras et les jambes, un peu comme le font les chats. Ça vous permet notamment d'augmenter vos amplitudes articulaires, de baisser vos tensions musculaires et même d'avoir une action relaxante. Et pour ceux qui ne voudraient pas faire le chat, téléchargez une application qui est gratuite, qui s'appelle Active Do, c'est une application de la sécurité sociale où vous allez trouver de nombreux exercices d'étirement pour faire le chameau, le cobra ou la girafe. Vous allez voir, il y en a pour tout le monde. Ensuite, sachez qu'il n'existe pas de position idéale pour télétravailler, mais que la pire des positions, c'est la station assise prolongée. Ça va étirer les muscles du dos et donc vous donner un lumbago. C'est pas parce que vous êtes à la maison qu'il ne faut pas faire de pause, parce qu'il n'y a pas de collègues, qu'on doit continuer de travailler toute la journée. Et donc, ce que vous devez faire, c'est plusieurs fois par jour de vous reposer et de vous lever et de marcher tout simplement. Enfin, pour ceux qui souffriraient du dos de façon chronique, et on sait que la composante émotionnelle de la douleur prend souvent une place importante et qu'il est possible de l'améliorer, notamment grâce à la méditation ou même l'hypnose. C'est prouvé scientifiquement. Il existe donc des solutions simples pour un problème qui paraît plutôt compliqué, mais vous allez voir qu'avec de petits conseils, on peut tous y arriver.
Merci docteur. Le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les jours à 15h dans Sans Rendez-vous, l'émission Santé avec Mélanie Gomez. 8h41, Notre Planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors on l'a beaucoup dit, hein, la pollution en ville a été drastiquement baissée par les périodes de confinement. Vous nous dites, évidemment avec la pandémie, qu'il faut s'intéresser à la multiplication des rues scolaires. C'est quoi ?
Et oui, parce qu'avec le Covid, ces rues scolaires, je vais vous expliquer, elles se sont multipliées un peu partout, notamment au Royaume-Uni et en Belgique, car dans le contexte sanitaire actuel, cela permet d'éviter les agglutinements à la sortie des écoles. Les rues scolaires, ce sont des rues qui, parce qu'une école s'y trouve, tout simplement, sont fermées temporairement et à certaines heures aux véhicules motorisés. Le raisonnement derrière ces rues scolaires, c'est de déclencher un vrai cercle vertueux. En interdisant systématiquement la circulation des voitures sur les créneaux scolaires, du coup, les abords des écoles deviennent plus sûrs. Les parents sont alors de plus en plus rassurés et donc susceptibles de laisser leurs enfants faire les trajets vers l'école à pied, à vélo ou en trottinette. Et donc, moins enclins à prendre la voiture pour les amener et les récupérer. Cela diminue ainsi la pollution liée au trafic, aux arrêts et à l'école, bien sûr. Et dans ces rues qui sont vidées de voitures, eh bien, de surcroît, on les végétalise, ce qui améliore encore un petit peu plus la qualité de l'air dans le quartier.
Est-ce qu'on a des données sur l'impact de ce type de mesure ?
Eh bien Mathieu, on commence à avoir un retour scientifique là-dessus. Les études d'impact nous viennent surtout d'Angleterre. Dans un échantillon de 35 écoles, 18% des parents automobilistes auraient réduit leur usage de la voiture grâce aux rues scolaires. La pollution par les oxydes d'azote a elle aussi bien chuté et le plébiscite parental est sans conteste. 81% des parents sont satisfaits de la disposition et 76% d'entre eux souhaitent la voir se généraliser.
Où est-ce qu'on en est en France alors avec ces rues scolaires ?
Alors, en France, les retours sur ces rues scolaires sont bien sûr très positifs, au point que certains maires leur ont donné une place importante à ces rues scolaires dans leur campagne municipale. Et depuis la rentrée scolaire dernière, la pratique prend vraiment de l'ampleur. Paris a piétonnisé les alentours de 80 écoles, Lyon l'a fait pour 23 d'entre elles et Lille pour 7. Alors, en attendant les études plus poussées sur l'impact écologique dans certaines écoles, ce sont plus de 90% des parents qui ont manifesté leur approbation à l'idée de la pérennisation des rues scolaires au-delà de la pandémie. On a cependant encore quelques efforts à faire. Au Royaume-Uni, qui devance largement tous les pays dans la matière, 350 rues scolaires de plus ont été déployées rien que depuis avril 2020.
Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1. Merci Fanny, il est 8h44. Dans un instant, avant de retrouver le meilleur de Nicolas Canteloup, on écoute Le Monde chanter avec Angèle Châtelier. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h46 sur Europe 1. Toute cette semaine, avant de retrouver le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup, on écoute Le Monde chanter. Avec vous, Angèle Châtelier. Bonjour, Angèle.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Et on découvre donc avec vous le nouvel album du groupe britannique London Grammar.
Un trio emmené par la chanteuse Anna Reid et sa voix enchanteresse. Souvenez-vous de leur tube Wasting My Young Years. It doesn't matter. Et le groupe London Grammar, Mathieu, revient avec un troisième album. Ce troisième album de London Grammar est le résultat de plusieurs prises de conscience. Le poids du succès d'abord, leur premier album If You Wait, sorti en 2013, a été certifié double disque de platine, soit 200 000 exemplaires vendus. Alors à l'époque, le groupe enchaîne les concerts, passe sa vie entre les avions, les bus et les festivals. Sans réelles attaches, ils se retrouvent donc loin de leurs proches.
Oui, il y a de quoi perdre la tête.
Oui, leur chanson Lose Your Head est un parfait symbole de cet état d'esprit. Et puis Mathieu, cet album, c'est aussi et surtout celui d'Anna Reid, la chanteuse, jusque-là plutôt discrète, effacée. Ici, elle s'affirme en tant que femme dans une industrie musicale qu'elle juge sexiste et brutale. Ils se moquent tous de ta situation difficile, chante-t-elle dans I Need The Night. On peut se demander si ce n'est pas un clin d'œil à tous ceux qui l'ont blessé, à ceux qui l'ont attaqué.
Pour ce qui est de la musique, en tout cas, c'est toujours aussi planant.
Oui, ça a toujours été le cas de la musique de London Grammar, mais pour cet album, ça a été inspiré de leur voyage aux États-Unis. Si vous y êtes déjà allé, Mathieu, vous avez peut-être ressenti la même chose que le groupe, à savoir être complètement subjugué par l'immensité des paysages, la poésie qui s'en dégage aussi parfois, et c'est ce qu'ils ont voulu nous partager dans leur chanson « America ».
Merci Angèle Châtelier. Le nom de ce nouvel album de London Grammar ?
Californian Soul, qui veut dire Soul Californien.
On se quitte sur l'un de ces titres ?
Oui, voici donc How Does It Feel sur Europe 1. A pure emotion, let it burn like fire. Do you yearn for a change? And I hope that you learn to never make the same mistake.
Californian Soil, le dernier album de London Grammar, décortiqué par Angèle Châtelier ce matin. Merci Angèle.
Merci Mathieu.
On écoute le monde chanter. Et puis si vous nous regardez sur Europe1.fr, vous voyez aussi Angèle Châtelier danser. Ça, c'est, ça peut arriver. Merci Angèle et on vous retrouve demain matin à la même heure. 8h51, on retrouve Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque du direct. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, les meilleurs moments. Nicolas Sarkozy était avec nous ce matin-là et on est revenu avec lui sur le reconfinement. Nicolas Sarkozy, bonjour.
Merci de m'accueillir. Vous êtes sûr de quoi que vous avez dit, là ? Non, parce que moi, je veux que mon procès soit avancé à demain. Voilà.
Ah bon, pourquoi ?
J'avoue tout. Voilà. J'ai pris 100 milliards de Kadhafi à Kadhafi pour financer ma campagne. Voilà, je veux aller en prison.
Ah, parce que c'est
si une urgence.
Que... Oui, c'est une urgence,
je veux aller en prison.
Ouais. Le confinement, c'est si dur que ça pour vous ?
Mais vous rigolez, mais
pourquoi ?
Carla. Vous savez son actualité, Carla, elle vient de sortir un nouvel album.
Ah oui, très
elle
bien,
répète tous les jours ses nouvelles chansons à la maison. Hein, et puis refaire l'école tous les jours, la petite Julia, hein, et lui expliquer quoi que c'est le participe passé du subjonctif présent. Non, franchement, j'en peux plus. Non, mais Mme Leclerc, M. Béliard, je vous prends droit dans les yeux. Je vais vous dire une chose, les coupes normales qui sont normales ont supporté un confinement. Ça, je dis pas. On a joué de jeu. Mais ils supporteront pas de confinement, les coupes normales. Je veux aller en prison.
L'usine de pneus Bridgestone à Béthune va donc fermer. Conséquence directe, 863 emplois seront supprimés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a qualifié cette décision de révoltante. Bonjour monsieur Le Maire.
Oui, c'est révoltant. Bonjour Mme Leclerc, monsieur Béliard et tout. Bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Oui, je suis en colère. Oui, vous le sentez au ton de ma voix. Parce que vous savez, moi je croyais que ça allait ruisseler. Hein, quand on donne des milliards d'euros à des entreprises, on espère qu'ils distribueront au moins des dizaines d'euros de centimes à leurs employés. Eh bien, savez-vous que même pas.
Bah, c'est un peu naïf,
même
hein, franchement.
Et sur ce point, il n'y a pas de débat.
Mais quelle naïveté, franchement, monsieur le ministre. Vous êtes vraiment surpris de les voir quitter Béthune.
Écoutez, sincèrement, pas plus que ça, parce que personne ne peut être surpris de voir quiconque quitter Béthune. La seule raison pour laquelle ils font des pneus à Béthune, c'est pour permettre aux gens de sortir de Béthune plus rapidement.
Europe 1, le meilleur de Nicolas Canteloup.
La maire de Paris a décidé de prendre le dossier de la propreté à bras le corps. Anne Hidalgo, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez déclaré, on ne peut pas mettre un éboueur derrière chaque Parisien. Mais ça veut dire quoi, en fait ?
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si... Paris est dégueulasse, c'est la faute des Parisiens et des Parisiennes qui sont des crados, mais pas la mienne.
Bon, mais les solutions que vous avez promises ces dernières semaines, qu'est-ce qu'elles sont devenues ?
Ouais, naïve celle-ci, j'adore. Bah, mais Julie, oui. J'avais des solutions pendant la campagne, mais maintenant que je suis en poste et élu, je peux vous dire la vérité. Mm-hmm. Paris est crado et va rester crado. Crado un jour, crado toujours.
Oh là là. Alors, dans le Parisien, les habitants de Belleville craquent. Ils disent, il y en a que pour les bobos du 11e arrondissement. Nous, on est oubliés.
Où ça, vous avez dit ? Vous avez dit où ?
À Belleville.
Oui, mais il n'avait qu'à habiter à Paris.
Non, mais c'est un quartier de Paris, Belleville.
Ah, non, je ne connais pas. Non, mais comme quoi, Belleville, les noms sont parfois mal choisis.
Et puis un mot de cette annonce hein, qui a mis le feu à la toile, une annonce qui émane de Century 21. 134 000 euros, les 6 mètres carrés et demi. Mais on est devenu dingue, hein, franchement.
Vous rendez compte, seulement 20 000 euros le mètre. Ça prouve qu'il y a encore des affaires à faire à Paris.
Ah non, ne faites pas d'offres.
Ah,
ne
Patrick
faites
Balkany.
Pas d'offres. Non, j'ai moi-même récemment vécu dans un tout petit peu plus de 6 mètres carrés, 7 mètres carrés exactement. J'ai pas aimé du tout. Hein. J'ai très vite donné mon préavis et je suis parti. Hein, j'ai dégagé.
Ah, ça vous choque, monsieur Balkany, hein, 6 mètres carrés pour 130 000 euros.
Écoutez, je vais vous dire une chose, madame Julie. Je ne le fais pas souvent. Mais je vais donner un conseil aux pauvres. Mmh. Si vous n'avez que 130 000 euros pour vous acheter un appartement, n'achetez pas un appartement de 6 mètres carrés et demi. Achetez-vous une Bentley et dormez dedans. C'est quand même plus chic, vous verrez.
Merci du conseil,
vous
Patrick
Balkany.
Et puis on connaît la somme que le Real Madrid devrait débourser pour faire venir Kylian Mbappé. 150 millions pour la star française. Zinedine Zidane, bonjour, vous êtes entraîneur de Madrid.
Ouais, bonjour Julie. Putain, 5-0, ça
oui,
fait mal.
Oui, merci Zizou, merci. Alors Mbappé, pour financer son arrivée, vous devrez vendre Gareth Bale, Isco, Marcelo, Dani Ceballos, Luka Jovic, Ibrahim Diaz, tout ça.
Ouais, voilà, Luka Jovic et Ibrahim. Oui, alors bien sûr, on faut vraiment tout ce monde, mais c'est super parce qu'on aura Kylian.
Oui, bah oui. Bon,
par contre, c'est vrai qu'il restera que 4 joueurs dans l'équipe.
Et voilà.
Donc je ne jouerai plus en 4-4-2, mais en 1-2-1. Voilà, mais avec Kylian, donc ça c'est.
Oui, et Kylian.
Ça c'est super bien.
Et oui, qui pourrait arriver dès le mois d'août à Madrid. Hein.
Voilà. Ouais, par contre, il faut qu'il vienne en voiture. Hein, parce que...
Mais pourquoi en voiture?
Non, parce qu'on a vendu l'aéroport de Madrid pour se payer Kylian. Mais bon, on aura Kylian dans l'équipe, et ça, c'est quand même super. Bon, je voulais, parce que j'ai accepté un deuxième job, là.
Quoi?
Ben, je livre des sushis à vélo, maintenant. C'est pour boucler mes fins de mois et pouvoir payer Kylian, quand même.
Ah, d'accord.
8h57, on retrouve la revue de presse, bien sûr, sur Europe1.fr. Philippe Vandel est déjà en studio avec nous, bien sûr. Culture Média va démarrer de 9h à 11h. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Question, et si Xavier Dupont de Ligonnès était encore en vie? C'est la thèse, en tout cas, c'est la question que se pose BFM TV à travers une série documentaire inédite 10 ans après le début de l'affaire. On en parle avec sa co-réalisatrice Isabelle Quintard et surtout la directrice de la rédaction de BFM TV, voir une vue d'ensemble, Céline Pigalle. Au sommaire également, le retour de la série Clem sur TF1, avec pas mal de rebondissements. C'est la 11e saison, donc elle est plus lycéenne depuis un moment, Clem. Mais l'héroïne pourrait bien devenir grand-mère à 33 ans seulement. On en parle avec le petit nouveau du casting, parce qu'il y a un petit nouveau, c'est le comédien Lou Denis Hélion qu'on avait découvert dans Scène de ménage, et le producteur de la série, Fabrice Renaud. Et puis, les membres du trio de rap pop 47R, vous connaissez ?
Mal.
Trio Phénomène, premier album qui était un énorme succès, star des réseaux sociaux, ils présentent leur second album qui s'appelle Légende, nouvel album très pop.
Mais je connaissais Mal et vous m'avez donné envie d'écouter Culture Média du coup.
Mais enfin, tellement,
alors
tous
ça,
les matins.
De 10h à 11h la partie. Culture.
C'est la base.
Merci Philippe Vandel, Culture Média. De 9h à 11h, donc dans quelques toutes petites minutes après l'info, évidemment. Je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.